Les sciences sont une source inépuisable d'étonnement, de fascination, de découverte ou d'interrogation. Embarquez dès maintenant pour un nouveau voyage au cœur des sciences. La génétique est présente partout dans notre quotidien, et pourtant nous sommes nombreux à ne pas toujours comprendre de quoi il s'agit vraiment. Aujourd'hui, on vous propose de revenir sur quelques bases incontournables de la génétique, un sujet éminemment complexe, mais pas d'inquiétude, on va voir ça tout de suite avec vous, Valérie, médiatrice scientifique à Altech. Bonjour.
Bonjour.
Alors Valérie, on le sait tous aujourd'hui, l'aspect de notre corps, son fonctionnement, ça dépend en partie de nous, hein. La manière dont on se nourrit, si on pratique le sport, si on fume ou pas, jusqu'à même la manière de s'habiller. Mais il y a aussi principalement notre code génétique. Où est-ce qu'on trouve ce fameux code génétique ?
La réponse est toute simple, dans nos cellules, dans les cellules de notre corps.
Alors pour revenir du coup sur les bases, c'est quoi une cellule ?
Pour être simple, on pourrait dire qu'une cellule, c'est la plus petite unité vivante du corps, une sorte de brique. On peut facilement voir les cellules au microscope. Bon, il existe des êtres vivants qui sont faits d'une seule cellule, par exemple la paramécie, alors que l'humain, est un immeuble de cellules, possède plusieurs milliards de cellules. Les cellules vont avoir des formes variées suivant l'organe auquel elles appartiennent. Par exemple, une cellule du cerveau, un neurone, aura une forme en étoile avec des prolongements très longs qui permettent la transmission de messages. Et à l'inverse, par exemple, une cellule de la bouche, une cellule buccale qui tapisse l'intérieur de la bouche aura une forme beaucoup plus simple, une forme un peu ronde en quelque sorte.
Ok, donc le code génétique, il est dans nos cellules, mais est-ce qu'on peut le voir ?
Ben, en quelque sorte, oui, on peut le voir parce que lorsqu'on regarde une cellule au microscope, on voit à l'intérieur une tache sombre qu'on appelle le noyau de la cellule. Et ce noyau, c'est une pelote de filaments. Ces filaments, ce n'est pas de la laine du tout, hein. Ce sont de longues molécules d'acides désoxyribonucléiques ou ADN. Et l'ADN, on le sait, on l'expliquera tout à l'heure, c'est ce qui porte le code génétique. ADN, ce sont les initiales d'acides désoxyribonucléiques, et acides désoxyribonucléiques, ça réfère à la composition chimique de cette molécule.
Alors si on veut juste donner une petite définition rapide d'une molécule, en gros, c'est un assemblage d'éléments chimiques, qu'on appelle aussi les atomes. Si on prend une molécule qu'on connaît bien, l'eau par exemple, H2O, c'est tout simplement deux atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène.
Oui, exactement, mais l'ADN est quand même très différent de la molécule d'eau. C'est une molécule qui est remarquable par sa composition chimique, par sa forme en échelle hélicoïdale. C'est un motif que la plupart des gens connaissent bien, un dessin qu'on voit assez fréquemment. Puis aussi par sa longueur. Par exemple, l'ADN d'une cellule humaine, l'ADN humain, si on met bout à bout toutes les molécules d'ADN d'une cellule humaine, on arrive à 1,9 m, donc presque 2 mètres en fait.
Presque 2 mètres d'ADN dans chaque noyau de chaque cellule
oui,
humaine.
Oui, exactement. Alors en fait, ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'il existe de l'ADN à l'intérieur des cellules, en dehors du noyau, mais aujourd'hui, on va se concentrer sur l'ADN qui est contenu dans le noyau des cellules, il y a déjà beaucoup à faire avec ça. Donc si je résume, je peux dire que le noyau de chaque cellule du corps contient 46 filaments d'ADN, 46 molécules d'ADN qui constituent probablement l'essentiel de notre code génétique.
46, ça fait référence aussi au nombre de chromosomes.
Ah oui, c'est vrai. Oui, oui parce qu'en fait, le chromosome, c'est la forme que prend chaque filament d'ADN au moment où la cellule se multiplie en deux cellules. C'est une forme particulière qui est bien visible au microscope, c'est une forme en bâton épais et foncé. L'intérêt, c'est que justement, on va pouvoir facilement photographier l'ADN à ce moment-là, qui est sous forme de chromosomes, et on peut découper ces chromosomes pris en photo, on peut les ranger, ce qu'on appelle faire un karyotype.
Alors si je me souviens bien de mes cours de bio, on a 46 chromosomes hein, chez tous les êtres humains. Mm-hmm. Par contre, on peut les ranger par paire, puisque par paire de même longueur, donc deux par deux.
C'est ça.
Ce qui fait qu'on a 23 paires de chromosomes.
C'est ça, exactement.
La seule différence, c'est sur la 23e paire de chromosomes, qui sont un petit peu particuliers. Hein, c'est les chromosomes sexuels qu'on appelle. Donc si vous vous souvenez bien, pour les filles, donc c'est, on a deux chromosomes X, et chez les garçons, chromosomes X et Y.
Oui, et le Y est un peu plus petit que le X, donc ce n'est pas une vraie paire à ce moment-là. Mmh.
Et ils sortent d'où ces 46 chromosomes ?
Bah, en fait, ils viennent de nos parents. Hein, nous les héritons de nos deux parents. L'enfant conçu reçoit 23 chromosomes de son père via le spermatozoïde et 23 chromosomes de sa mère via l'ovule. Alors évidemment, on peut se demander pourquoi un parent tout seul, un humain tout seul, ne peut-il pas faire un enfant directement et lui donner directement 46 chromosomes, ce qui serait quand même beaucoup plus simple. Mm. En fait, lorsque l'enfant hérite pour moitié des chromosomes de son père et pour moitié des chromosomes de sa mère, cela va rendre l'enfant différent des deux parents et donc unique. Ça permet un brassage comme ça de l'information génétique.
Alors, est-ce qu'il est possible chez l'humain qu'il y ait un chromosome en plus ou un chromosome en moins, par exemple ?
Oui, malheureusement, oui, il existe. C'est vraiment un accident qui peut arriver. On appelle ça une anomalie chromosomique. Et certaines sont viables. D'autres viables, ça veut dire que l'enfant va pouvoir vivre, comme par exemple la trisomie 21. D'autres sont non viables. Et à ce moment-là, soit il y a fausse couche, soit l'enfant né ne vit pas longtemps. Heureusement pour nous, il est possible de savoir si l'enfant qu'on attend est atteint d'anomalie chromosomique avant la naissance. Et dans le cas d'anomalie grave, les parents peuvent choisir d'interrompre la grossesse.
Bulle de science. Alors, on a beaucoup parlé du matériel génétique jusque-là, mais pour l'instant, on ne parle pas encore de code génétique. Et d'ailleurs, c'est quoi ? Pourquoi on parle de code ?
Alors, parler de code, quand on parle de génétique, est simpliste. Et on peut même dire qu'au regard des dernières découvertes, c'est probablement un petit peu faux. Mais ça reste pratique. En fait, des recherches ont montré que l'ADN, cette longue molécule d'ADN, est constituée de quatre petites molécules de base qu'on appelle A, T, C, G. Et la succession de trois de ces petites molécules de base permet, programme dans la cellule, la fabrication d'un fragment de protéine. Donc, chaque fois qu'on a une succession de ATCG suffisante pour programmer la fabrication complète d'une protéine, alors on parle de gène. Je simplifie, hein, parce qu'en fait, on peut parler de gène pour d'autres choses, mais bon, ça suffira pour démarrer comme ça.
Et pour rappel, du coup, c'est quoi exactement une protéine ?
Les protéines, alors, ce sont les molécules qui constituent notre corps et qui le font fonctionner. Du coup, l'ordre et le nombre de ces petites molécules de base ATCG qui se suivent sur l'ADN constituent le code du corps. Hein, très simple, c'est ça. L'ensemble, c'est ce qu'on appelle le code génétique.
Mmh. Alors, ce qu'il y a de génial avec cette génétique, c'est que tous les êtres vivants possèdent de l'ADN, hein, que ce soit une plante ou un animal. On peut imaginez qu'on prélève un gène d'un être vivant et qu'on le greffe dans un autre. C'est ce qu'on appelle un OGM, hein, un organisme génétiquement modifié. On pense tous bien sûr au maïs OGM. Hein. Il y avait une variété de maïs, par exemple, qui est issue du prélèvement sur une bactérie d'un gène de résistance à un insecte donné qu'on a greffé sur un maïs, d'où le maïs OGM. Valérie, qu'est-ce qui arrive si une lettre manque ou est fausse dans ce fameux code génétique ?
Il y a deux solutions. La solution la plus fréquente, c'est que l'ADN va réparer cette erreur. Il y a de nombreux mécanismes de réparation à l'intérieur de la cellule et c'est heureux parce que chaque jour, nous subissons de nombreuses modifications génétiques, hein, ce qu'on appelle des mutations, par exemple sous l'effet de radiation ou de produits chimiques. La deuxième solution, c'est que cette erreur va empêcher du coup la fabrication normale d'une ou de plusieurs protéines. Et ça va se manifester par des symptômes. Et du coup, à ce moment-là, on parle de maladie génétique. Par exemple, une erreur sur le gène de la paire de chromosomes 7 provoque de graves difficultés respiratoires et digestives. donc tout le monde connaît sous le nom de la mucoviscidose. C'est la maladie génétique phare de la virade de l'espoir. Et cette erreur, elle devient transmissible aux enfants. Elle devient héréditaire.
Alors, si un gène code une protéine, est-ce qu'on peut envisager de corriger ce gène pour soigner la maladie génétique ?
Ça serait vraiment super pratique si c'était si simple. Mais aujourd'hui, c'est certain, on sait que ça ne fonctionne pas comme ça. Il semble qu'une même portion d'ADN puisse être impliquée dans de nombreuses protéines, et ce, suivant la cellule à laquelle elle appartient. Alors, quand en 2003, on a décodé tout le génome humain, la plupart des gens ont pensé, c'est génial, parce que maintenant qu'on connaît tous les gènes, on va pouvoir les réparer et soigner toutes les maladies génétiques. Mais en fait, il s'avère que connaître la succession des lettres, des ATCG de notre ADN, c'est ce qu'on appelle le séquençage, séquencer, ça ne revient pas du tout à avoir compris ni comment ça marche, ni à quoi ça sert.
Ouais,
c'est deux choses différentes.
Ouais, à ce sujet, on entend souvent que les gènes ne représentent que 1 à 5% de notre ADN. Et du coup, tout le reste, c'est quoi ?
Oui, alors ça pose question, ouais, ça c'est sûr. Et d'ailleurs, l'évolution du vocabulaire par rapport à ces 95% d'ADN dont on ne sait pas vraiment à quoi il sert, c'est assez, ça témoigne vraiment de la difficulté de comprendre à quoi ça sert. Autrefois, on appelait ça l'ADN poubelle, puis après, c'est devenu l'ADN de remplissage. Maintenant, on dit ADN non codant. Et il est possible, et peut-être même probable, qu'une partie de cet ADN intervienne dans la régulation des gènes codants, par exemple en les rendant actifs ou silencieux, suivant la place de la cellule dans le corps. Par exemple, pour reprendre l'exemple de tout à l'heure, dans un neurone ou dans une cellule de la bouche, les gènes qui sont actifs ou silencieux ne sont pas les mêmes et cette régulation pourrait être faite par cet ADN de remplissage.
Donc en fait, toutes les cellules ont le même matériel génétique, mais elles ne l'utilisent pas du tout de la même manière.
Exactement.
Suivant leur fonction.
Et puis, je voulais simplement dire aussi, pour combattre une idée fausse, c'est que c'est sur cet ADN non codant que l'on fait les tests d'ADN, par exemple pour les recherches de paternité ou la police scientifique pour confondre un criminel.
Voilà. Alors, ce qui est marrant, on aurait pu penser que tout est inscrit dans notre ADN. Alors, on n'a pas encore saisi précisément comment ça fonctionne exactement. Est-ce que l'environnement peut avoir une influence sur notre code génétique ?
Eh bien, il semblerait que oui. Il y a une nouvelle branche de la génétique qui s'est développée ces 15 dernières années, qui s'appelle l'épigénétique. Donc, littéralement, c'est ce qui est au-dessus des gènes. On pourrait dire que c'est ce qui est autour des gènes. Et on voit qu'il existe des liens entre le mode de vie et l'expression de certains gènes ou leur mise sous silence. L'expression ou l'extinction de ces gènes devient alors héréditaire. C'est ça qui est remarquable. Par exemple, une abondance alimentaire ou une famine, une disette, affecte la prédisposition au diabète sur plusieurs générations.
Alors tout à l'heure, vous aviez parlé d'un parent seul faisant un enfant. Aujourd'hui, c'est possible avec le clonage. Simplement, on prend un ovule, on en extrait le noyau et on le remplace par le noyau d'une cellule du corps. On connaît par exemple Dolly, le premier mouton cloné.
Oui, c'est vrai, mais ça peut être un mammifère, c'est toutefois pas aussi simple à faire sur l'humain. Et puis les comités de bioéthique n'ont pas autorisé le clonage humain. Il est quand même cependant envisagé à un niveau cellule embryonnaire pour pallier au manque d'organes et il n'est pas du tout envisagé pour l'instant pour faire des enfants.
Vous aurez eu les bases de la génétique. On a vu à quel point c'est complexe mais à la fois passionnant et surtout en perpétuelle évolution. La science continue d'avancer. Merci Valérie pour cet éclairage.
Oui.
N'hésitez pas à aller consulter les livres, les nombreuses vidéos YouTube qui détaillent le sujet. On n'a pas eu le temps de parler de tout aujourd'hui, bien sûr. Et merci encore Valérie. Et puis nous, on se retrouve le mardi 25 décembre, le jour de Noël, pour la prochaine chronique. On parlera pour le coup d'un véritable cadeau de la nature que sont les abeilles et combien elles sont importantes pour nous, les êtres humains. Retrouvez toutes les chroniques d'Altech sur le site de Radio B, radio-b.fr. À bientôt.